Emmanuel Bauve. Le remords. Cette année-là, le docteur Jacques Figue et sa femme, pour ne pas perdre de vue un riche client qui avait loué une villa dans les environs de Toulon, avaient décidé de passer leurs vacances dans le Midi. On était en août. Le ménage s'était installé à Marseille. Il était assis à la terrasse d'un café du Vieux-Port. Il faut tout de même que je profite de mon séjour ici pour aller voir demain mes parents. « Et moi, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Je vais errer comme une âme en peine. Je serai de retour à 7 heures. Il y a un train qui part à 6 heures de Vivespart. Il met 50 minutes. Alors, je vais passer la journée toute seule? Ce n'est pas terrible. Maintenant, si tu veux, tu n'as qu'à m'accompagner. Tu m'attendras dans un café devant la gare. Nous déjeunerons ensemble, j'irai les voir après. » Je passe 2 heures avec eux et je te rejoins. » Ce fut à cette dernière solution que M. et Mme Figue s'arrêtèrent. Le lendemain matin, à 9h10, ils prenaient l'unique train se rendant à Espard. Une fois arrivés, ils se promenèrent dans la campagne, déjeunèrent dans une auberge. « Maintenant, je vais y aller, » dit le docteur Figue. « C'est ça, Jacques, mais ne sois pas trop long. N'oublie pas que je suis toute seule. » Jacques Figue sortit, laissant sa femme attablée dans la salle fraîche et obscure du café de la gare d'Espard. Il prit une grande allée de platanes, puis tourna à droite dans un chemin étroit. Il y avait 7 ans qu'il n'avait pas revu ses parents, 7 ans durant lesquels il s'était fait péniblement une situation à Paris. Il était marié à présent. Il avait épousé la fille du directeur de l'OPP, Office de produits pharmaceutiques. M. Vesoul savait ce qu'était la vie et surtout ce qu'étaient les obligations familiales. Dès sa première entrevue avec le docteur Figue, il avait compris que les origines de son futur gendre étaient modestes et, bien loin de lui en faire le reproche, il s'en était réjoui. Aussi, Jacques Figue, déjà porté naturellement à renier les siens, s'était-il donné de plus en plus pour plaire à sa belle famille, le genre orphelin parvenu à la force des poignets. Ce n'avait été que 2 ans plus tard qu'il avait avoué à sa femme qu'il faisait une pension de 300 francs par mois à ses vieux parents. On ne savait jamais, sa femme aurait pu la prendre un jour. Il l'avait dit juste une fois pour qu'on ne pût lui reprocher plus tard de l'avoir cachée. Sa femme, d'ailleurs, n'avait pas paru comprendre. En suivant le chemin qui conduit au hameau de Vire, situé à 1 kilomètre d'Espard, le docteur Figue était tout de même ému. Le soleil était brûlant. Des collines, couvertes d'oliviers, s'étendaient à gauche et à droite. Sur le bord du chemin, la terre qu'on apercevait était sèche, ridée, crevassée, parsemée de crêtes dures. Jacques se rappelait le mal que cette terre avait fait jadis à ses pieds nus. Déjà, les premières maisons du hameau se dressaient au bout du chemin. Il prit un sentier. Quand il arriva dans le hameau, le silence qui y régnait lui sembla plus grand encore que celui de la campagne. On eût dit, sans les étoffes qui se balançaient doucement aux fenêtres, qu'il était inhabité. Enfin, le docteur Figue s'arrêta devant une sorte de bâtiment d'un étage, entouré d'une cour absolument vide. La porte était entr'ouverte. Il la poussa. Il reconnut alors la salle où, de petit garçon, il était devenu un adolescent. Les mouches y faisaient le même bourdonnement. Il appela. Alors il entendit des pas, plus lents que jadis, mais faisant toujours le même bruit de bois sur la terre battue, et sa mère parut. Elle avait vieilli. C'était cependant la même femme, portant camisole et tablier. À la vue de son fils, elle poussa un léger cri, puis, joignant les mains, elle dit « Toi, Jacques ?»« Oui, moi-même, » dit le docteur en s'approchant de sa mère et en l'embrassant. « Et où est le père ?» La vieille femme était tellement émue qu'elle ne pouvait parler. « Il est à Marseille, » dit-elle enfin. « C'est bien ma chance. Je viens de Marseille, justement. Il ne va pas rentrer avant ce soir, probablement. »«
Je ne sais pas. » »«
Et moi, qui me réjouissais tant de le voir. » Si je n'étais pas obligé de repartir, je l'aurais attendu. » Une heure à peine plus tard, Jacques se leva, embrassa de nouveau sa mère.
« Reviendras-tu bientôt ? » ?»« Oh, certainement, mais pas avant un an. J'ai tellement de travail. Quand on habite Paris, venir jusqu'ici, c'est loin. En tout cas, je reviendrai. Embrasse père pour moi. Dis-lui que je suis venue surtout. N'oublie pas. La vieille femme sourit un instant. Comment pouvait-il lui demander de ne pas oublier qu'il était parti? Puis des larmes vinrent à ses yeux. À bientôt, cria Jacques en feignant de ne s'apercevoir de rien. Quelques instants après, il se retrouvait sur le chemin d'Espard. Il était soulagé, il avait fait son devoir. Lorsqu'il pénétra dans le café de la gare, sa femme éprouva une surprise agréable. Elle n'attendait pas son mari si tôt. Il était à peine 4 heures. Comme le train ne quittait Espard qu'à 6 heures, ils lurent les journaux, firent quelques parties de cartes, puis, quand la chaleur fut moins grande, s'assirent à la terrasse. Déjà, la petite place commençait à s'animer. De temps en temps, une voiture la traversait. À 3 ou 4 reprises, la sonnette de la gare se mit à tinter. Un taxi vint même se ranger devant la barrière longeant la voie. Jacques regardait distraitement les rares promeneurs lorsque soudain il eut un mouvement de recul. Une vieille femme, voûtée, se dirigeait vers la gare. Il avait reconnu sa mère. Sans aucun doute, elle voulait revoir son fils une dernière fois. Elle allait pleurer, essayer de le retenir. Il faudrait qu'il s'arrachât à une étreinte pour monter dans le train. Que penserait sa femme? Nous allons prendre ce taxi pour entrer, dit le docteur Figg, comme si brusquement il en avait assez d'attendre. Lorsque sa mère eut disparu dans la gare, il se leva, appela la servante, régla ce qu'il devait, puis, accompagné de sa femme, monta dans le taxi. Au moment où celui-ci démarrait, la vieille femme, qui avait cherché en vain son fils sur le quai, reparut dans l'entrée de la gare. Le train ne part que dans une demi-heure, murmura-t-elle. Elle traversa lentement la place, s'assit sur un banc, à l'ombre d'un platane. De temps en temps, elle regardait l'horloge. Ce n'était plus la même femme. Son visage avait une expression d'anxiété. À chaque instant, elle se retournait pour voir si son fils n'arrivait pas, par hasard, par le chemin des Rocs. Parfois, craintivement, elle jetait un regard sur le groupe de messieurs qui, maintenant, étaient attablés à la terrasse du café. Elle n'avait visiblement qu'une pensée, qu'un désir, revoir son fils. Mais ce n'était pas pour l'embrasser une dernière fois. Ce n'était pas pour cela. C'était pour lui demander pardon. C'était pour soulager sa conscience. C'est parce qu'après le départ de Jacques, elle avait été prise d'un remords. Il y avait 3 ans qu'elle cachait la vérité à son fils, par intérêt, pour qu'il ne diminuât pas la mensualité de 300 francs, qu'il ne la réduisît pas à 150 francs, par exemple. Elle avait voulu revoir Jacques pour lui dire que son père n'était pas à Marseille, mais tout près, juste au bout de l'allée de platane, derrière la petite église, dans le cimetière d'Espard.